Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'un scandale qui ne fait que commencer, les pesticides et leurs victimes. Depuis plus de 50 ans, nos campagnes sont dopées, shootées à ces produits chimiques que les industriels fabricants appellent produits phytosanitaires, histoire de rassurer. En Europe, la France est championne en la matière. En 2014, notre pays a consommé au moins 60 000 tonnes de pesticides, soit 9% de plus que l'année précédente. Une progression constante, malgré les alertes, malgré les études qui de plus en plus établissent la corrélation entre l'utilisation de ces produits et l'augmentation de certaines maladies. Ils sont de plus en plus nombreux, exploitants comme simples consommateurs à combattre ce fléau sur le plan judiciaire et médiatique et ainsi briser le mur du silence autour de cette question grave. L'un de ces combats, les plus emblématiques, est celui de Paul François, agriculteur de Charente, qui depuis de longues années mène une bataille contre Monsanto, coupable, selon lui, de l'avoir intoxiqué. C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Tout au long de cette émission, vous entendrez des extraits de documentaires qui ont raconté l'histoire de ces victimes, dont celui de Marie-Monique Robin, « Notre poison quotidien », diffusé sur Arte, le film d'Éric Guéret, « La mort est dans le pré », diffusé sur France 2, ainsi que le documentaire radiophonique de Pascal Pascariello, intitulé « Le procès », diffusé, lui, sur France Culture. Et, comme pour chaque émission, toutes les références sont accessibles sur la page de l'émission et du site de France Inter. Notre invité aujourd'hui, pour actualiser cette enquête et comprendre les enjeux économiques et politiques de ce combat, nous recevrons Pierre Thomas, président du MODEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux, lui-même éleveur de bovins et producteur de céréales dans l'Allier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Jérôme Michelius.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Le 17 janvier 2010, Ruffec. Dans cette commune de Charente, située au milieu des champs de maïs, avec leur compagne ou épouse, 30 agriculteurs se retrouvent dans une salle de l'hôtel L'Escargot. Ils s'appellent Dominique, Yannick, Paul. Ils sont tous âgés de moins de 50 ans et ils sont tous malades. Comme beaucoup de paysans de France, et d'ailleurs, ils sont les héritiers de l'agriculture intensive et chimique. Au lendemain de la guerre, sous l'influence des ministères et des coopératives agricoles, leurs pères couplent et rationalisent leurs champs et généralisent la monoculture. Ils investissent dans les tracteurs, les moissonneuses-batteuses et la chimie. Pour contrôler la terre et le temps, ils acceptent l'aide des pesticides qu'ils déversent sur leurs cultures, dans leurs vergers ou sur les pieds de leurs vignes. Est-ce dangereux pour leur santé et pour celle des consommateurs? Pendant des années, ils sont peu nombreux à se poser cette question. 50 ans après, les pesticides rongent la terre et les corps. Parmi ces agriculteurs, il y a Yannick Chenet. En 1989, à 21 ans, il reprend la ferme familiale où il cultive des céréales et du vin. Les pesticides ont toujours fait partie de son quotidien, de son environnement. Personne ne lui a dit de se protéger les mains, le visage ou d'éviter de retourner sur les champs après les bandages. Mais en 2002, en rentrant de vacances, Yannick se sent fatigué. Il voit son médecin, une prise de sang est effectuée, puis tout s'accélère. Le vendredi, il entre aux urgences de Royan. Le lundi, on le transfère à Poitiers. Le mercredi, il entame sa chimio. À 37 ans, Yannick est atteint d'une leucémie aiguë. 8 ans plus tard, le visage gonflé, les yeux rougis, il raconte son quotidien.
Moi c'est Yannick, je suis agriculteur à Saujon.
Notre poison quotidien.
Je suis tombé malade en octobre 2002.
Un documentaire réalisé par Marie-Monique Robin.
J'ai contracté une leucémie aiguë, myéloïde de type 4. Aujourd'hui, en 2003, ils m'ont fait une greffe de moelle osseuse qui a bien fonctionné au CHU de Poitiers. Et par contre, aujourd'hui, j'ai toujours la réaction du greffon contre moi. C'est-à-dire la greffe... La personne qui m'a donné sa moelle osseuse n'était pas compatible à 100% avec moi. La greffe réagit contre mon corps. Aujourd'hui, j'ai des problèmes sur la peau et sur les tendons, rétraction des tendons et sclérodermie de la peau. Sécheresse des yeux et plein d'autres problèmes.
Tour à tour, chacun prend la parole, raconte son exploitation, son amour pour ce métier, puis l'apparition de la maladie, les procédures médicales et judiciaires en cours. À Ruffec, ce jour-là, à travers ses voix et ses histoires, c'est tout un pan de l'agriculture française qui se dévoile. Ils sont venus de Creuse, du Cher, du Languedoc-Roussillon, des Vosges ou encore du centre de la France, comme Jean-Marie Dédion, qui exploite une ferme de polyculture à dominante maïs. En 2001, en se hissant sur son tracteur, son numérus droit se fracture d'un coup, oui, sans raison. Dans la journée, on l'hospitalise d'urgence. Diagnostic, il est victime d'un myélome, un cancer de la moelle osseuse. En général, ce type de maladie apparaît dans les cas les plus précoces vers l'âge de 60 ans. Jean-Marie Dédion en a 20 de moins. Dominique Marchal, lui, a fait le déplacement des Vosges. Il souffre d'un syndrome myéloprolifératif, une forme de cancer du sang. Il a 44 ans quand il diagnostique ce mal. Cette maladie est liée à l'exposition au benzène, une molécule dont l'usage est très réglementé. Selon la Mutuelle Sociale Agricole, voilà des années qu'il n'est plus présent dans les produits. Pourtant, lorsqu'il entreprend des analyses sur les substances qu'il utilise, une quinzaine contiennent du benzène. Il y a donc les maladies longues, celles qui s'infiltrent à petite dose, consumant l'organisme à petit feu. Et puis il y a les maladies dues à un accident, comme ce fut le cas pour Gilbert Vendée.
En 98, j'ai inhalé du gros chou, toute une journée. Le soir, donc j'ai été malade.
Notre poison quotidien.
Le médecin est venu.
Un documentaire réalisé par Marie-Monique Robin.
Et je rendais tout ça, donc il m'a fait un papier comme quoi que j'avais inhalé du gros chou. Et en 2002, donc, je suis allé voir une neurologue en médecine nucléaire à Tours, et qui m'a dit, vous avez la maladie de Parkinson. Et elle, carrément, elle m'a dit comme ça, ça peut venir des pesticides que vous avez inhalés.
Lors de cette rencontre, initiée par François Veillerette, ancien président de Greenpeace France, il y a Paul François et son avocat François Laforgue. Il est sans doute le seul dont tout le monde a déjà entendu parler grâce aux articles et reportages télévisés sur son combat contre Monsanto. Sa ferme est située à quelques kilomètres à Berlac. Installé sur une exploitation de 240 hectares, il cultive du blé, du maïs et du colza. Et tout va bien, jusqu'au 27 avril 2004. Comme souvent ce jour-là, Paul François pulvérise ses champs de maïs avec du lasso, un puissant herbicide fabriqué par la firme américaine Monsanto. À l'époque, il ne sait sans doute rien de l'histoire de cette multinationale qui a fait fortune en vendant des produits chimiques pour la fabrication d'explosifs et de gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale. Il ne connaît sans doute pas le rôle de cette entreprise dans la guerre du Vietnam et comment elle est devenue l'un des leaders des OGM et de la production de pesticides. Monsanto, lasso, ne sont que des noms dont il ne se méfie pas. Après un épandage, logiquement, un système automatique permet de nettoyer le pulvérisateur. Alors, à la fin de cette journée du 27 avril 2004, sans crainte, Paul ouvre le couvercle de la cuve pour vérifier si tout est propre. Sauf que ce jour-là, le nettoyage ne se passe pas comme prévu. Des vapeurs s'échappent de la cuve. Chauffés par le soleil, les résidus de la sauce se sont transformés en gaz.
Et au moment où je l'ai inhalé, j'ai senti une sensation de chaleur dans tout le corps. Je sens cette décharge dans le corps, donc j'ai laissé l'appareil où il était, je suis rentré chez moi. Bon, les consignes hein, dans ce genre de problème, c'est de se changer, prendre une douche, c'est ce que j'ai fait. Et puis je me suis dit, bon, ça va passer, je me suis allongé. Mais je sentais bien que j'avais une fatigue et puis une sensation d'endormissement.
Sa femme l'emmène alors à l'hôpital. Paul François crache du sang, titube et tombe dans le coma pendant plusieurs jours. Quand il se réveille, il ne se souvient de rien et souffre de bégaiement. Bien que cette crise se soit déroulée quelques heures après l'ouverture de la cuve où se trouvait du lasso, aucun prélèvement sanguin et urinaire n'était effectué. Et peu à peu, son état se stabilise. Il sort de l'hôpital. Au bout de quelques semaines, malgré les vertiges, il reprend son travail. Quelques mois plus tard, ses deux filles le retrouvent chez lui, dans le coma.
J'ai été hospitalisé dans la nuit en urgence à l'hôpital. Alors là, effectivement, beaucoup d'examens, et de dire « les examens ne montrent rien », et tout de suite de dire « oui, mais comme il est surmené, qu'il est très fatigué, il faut d'abord qu'il ait du repos ». Alors ça, c'est vrai qu'on m'a, je n'avais jamais passé autant de temps à me reposer. J'étais effectivement très fatigué, j'avais perdu pas loin de 10 kilos, et puis je perdais connaissance brutalement. Ça devenait des comas plus ou moins profonds.
Tout au long de l'année 2005, sa vie est rythmée par les hospitalisations et par les comas à répétition. De quel mal souffre-t-il ? Les médecins parlent de dépression, de maladie mentale. Tout est étudié, ou presque. De son côté, Paul-François tente d'entrer en contact avec le fabricant du lasso, Monsanto. Il passe par la coopérative agricole. Après plusieurs relances, un responsable de la société américaine en France joint le couple François. Selon les dires de ce responsable, il n'y a aucun antécédent d'intoxication au lasso, mais il sous-entend néanmoins que l'entreprise pourrait imaginer une compensation financière si le couple se refusait à toute attaque judiciaire contre la firme. Étrange. Quelques semaines plus tard, Paul-François est au téléphone avec le médecin responsable en toxicologie de Monsanto aux États-Unis, à Saint-Louis. Même son cloche, le lasso n'est pas coupable, selon le représentant américain. Dans le même temps, Paul et sa famille sollicitent un toxicologue réputé du CNRS, André Picot. Celui-ci entreprend l'analyse du lasso pour connaître avec précision la composition de l'herbicide. Surprise, il découvre 0,2% de chlorométhylester, de l'acide acétique. Dans le même temps, en février 2005, pour la première fois, un prélèvement urinaire est réalisé. 10 mois après l'accident, on constate alors un pic d'excrétion du chlorophénol, le principal métabolite du chlorobenzène. Grâce à ces analyses, André Picot préconise un traitement contre l'empoisonnement. Et peu à peu, Paul-François retrouve des forces. Alors, le lasso, l'herbicide de Monsanto, peut-il être responsable de son état de santé ? Il le pense et décide de demander justice.
Je prends un avocat qui me dit « mais moi, j'ai des contacts avec certains médecins qui pourront nous aider pour cette reconnaissance. » Ce qui l'a surpris, c'est que les premiers médecins responsables de service dans des hôpitaux, quand ils lui parlaient du produit qu'ils disaient « c'est Monsanto qui l'a fabriqué », deux lui ont dit « attends, nous, on ne veut pas être embêtés ». Très vite, je commence à me poser des questions parce que, en faisant un travail d'investigation, je découvre d'une part que ce produit, le lasso fabriqué par Monsanto, donc homologué en 1967, a commencé à être remis en question sur sa toxicité dès le début des années 80 par certains pays. Je prends pour exemple le Canada, qui a interdit l'utilisation de ce produit dès 1985. Je découvre aussi que des pays comme la Belgique et certains États américains l'ont interdit dès le début des années 90. Et je commence à comprendre que cette firme est capable de fabriquer des molécules et n'a pas beaucoup de scrupules pour l'environnement et puis pour la santé humaine, tout simplement.
Effectivement, comment expliquer que ce produit soit interdit au Canada et en Belgique, mais toujours autorisé en France ? En 2007, Paul-François décide de lancer deux procédures. L'une contre la Mutualité Agricole, l'autre contre Monsanto. Cette année-là, 39 ans après sa mise sur le marché français, le lasso est interdit par l'Union européenne. Alors qu'il est considéré comme dangereux, le ministère de l'Agriculture annonce pourtant un délai de distribution jusqu'au 31 décembre 2007 pour permettre à la société d'écouler ses stocks au sein des coopératives agricoles. Mais en novembre 2008, le vent tourne. Le tribunal des affaires de sécurité sociale donne raison à l'agriculteur français. Il décrète que la rechute déclarée du 29 novembre 2004 est directement liée à l'accident du travail du 27 avril de la même année et qu'il doit être pris en charge. Contestée, cette décision est confirmée en janvier 2010 par le tribunal de Bordeaux. Quelques jours plus tard, Paul-François réagit devant la caméra de France 3.
Si les firmes nous mentent, si on utilise des produits beaucoup plus dangereux qu'on nous le dit, il y a tromperie. Pour moi, il y a tromperie pour les agriculteurs. Et puis, il faudra bien en parler. Toutes les personnes qui ont homologué les produits, les services de l'État qui ont homologué ces produits, je voudrais bien savoir quel rôle ils ont joué et quel rôle ils jouent encore aujourd'hui.
Il s'agit tout de même d'une première victoire. Désormais, c'est Monsanto qu'il faut mettre face à ses contradictions et ses défauts d'information. D'autant que de nouveaux agriculteurs tombent malades. C'est le cas de Frédéric Ferrand, un viticulteur de 40 ans. En 2010, il trouve du sang dans ses urines. Après les analyses, son médecin lui dit « Vous avez la maladie des viticulteurs ». Autrement dit, cancer de la vessie, stade 4. Dans les vignes, le mal qui s'attaque aux feuilles s'appelle le mildiou. Pour y faire face, Frédéric utilise du folpel et du phosphatyl d'alumine. Pendant des années, il les manipule sans masque, à main nue. Sur les étiquettes, il n'y avait rien de marqué, même pas qu'on devait mettre des gants, dira-t-il plus tard. Est-ce la raison de ce cancer ? Il le pense. Alors, comme pour les autres exploitants malades, la bataille s'organise sur deux fronts, celle du corps avec le soutien de la médecine et celle de la justice avec l'aide des avocats. Ne pouvant plus travailler pleinement au sein de leurs exploitations, ces paysans se tournent alors vers la mutualité agricole pour faire reconnaître leur pathologie en maladie professionnelle. Mais la démarche est longue, compliquée. Entre 2002 et 2010, la Sécurité sociale agricole n'a admis que 47 maladies professionnelles de ce type. Beaucoup de dossiers sont rejetés. Mais enfin, de quoi ces exploitants sont-ils coupables, sinon d'avoir fait confiance à des produits autorisés et préconisés par des autorités compétentes ? Est-ce que les éléments présentés par les industriels pour son homologation suffisent à mesurer le degré de dangerosité ? Pour répondre à ces questions, on peut citer un article du journal Le Monde publié en juin dernier qui recense les résultats d'un rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. On apprend par exemple que les scénarios idéaux imaginés par les industriels ne sont en aucun cas le reflet de la situation, notamment au sujet des équipements de protection. En résumé, les études se basent sur des éléments faussés ou, du moins, ne prennent pas en considération l'ensemble des situations et donc des risques. A-t-on informé les agriculteurs comme les consommateurs de la dangerosité de ces produits ? Non. Pire, les multinationales dont Monsanto ont parfois travesti la vérité et ont été condamnées pour des publicités dites « mensongères », notamment celle du Roundup, dont vous avez sans doute vu le spot à la télé dans les années 90.
Si, comme Rex, vous détestez les mauvaises herbes dans votre jardin, voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre, ni l'os de Rex. Roundup, le premier désherbant qui donne envie de désherber.
Roundup ne pollue ni la terre, ni l'os de Rex. Pourtant, en 1996, alors que le spot est diffusé en France, le procureur de New York condamne Monsanto à une amende de 500 000 dollars et au retrait des mentions jugées mensongères. En France, il faut attendre l'année 2007, soit 20 ans, pour que Monsanto soit condamné pour les mêmes motifs. La firme américaine n'en est pas à son premier scandale et désormais, de nombreuses études et associations alertent l'opinion sur les risques de ces produits, dont le Roundup, à base de glyphosate, qui serait potentiellement responsable de malformations fœtales. Quand Paul-François décide de s'attaquer à Monsanto, il sait désormais qu'il s'agit de l'une des plus puissantes multinationales du monde, présente, influente sur les 5 continents, autant dans les couloirs des ministères que sur les places financières. Pourtant, il tient tête, pour lui et pour ceux qui n'ont pas pu vaincre la maladie. En janvier 2011, c'est Yannick Chenet, présent à Rifek un an plus tôt et dont vous avez entendu les mots au début de ce récit qui succombe à la maladie. Il avait 43 ans. Même si sa leucémie a été reconnue comme maladie professionnelle par la Mutualité sociale agricole, aucun produit spécifique n'a été clairement défini comme responsable. Autrement dit, une victime, pas de coupable. Quelques semaines plus tard, le 19 mars, les agriculteurs se retrouvent une nouvelle fois à Ruffec, où ils lancent un appel et fondent une association de défense des victimes des pesticides, l'association Phyto-Victimes. Parmi les paysans présents, le viticulteur Frédéric Ferrand est là. Son cancer de la vessie est stable. Devant les journalistes, il raconte son histoire. Et il dit « On a été formaté, abreuvé de produits phytosanitaires ». Depuis le lycée agricole, on m'a dit « les engrais font pousser ». Fini le malheureux sulfate de cuivre pour braver le mildiou, la chimie de synthèse. C'était miraculeux. On y croyait dur comme fer. Quelques mois plus tard, en novembre, le médecin livre son verdict.
Donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une reprise de la maladie au niveau osseux.
La mort est dans le pré, un documentaire réalisé par Éric Guéret.
Toute la zone qui a été grignotée de l'os s'est agrandie. C'est-à-dire que le trou s'est agrandi, ce qui veut dire qu'il reste des cellules cancéreuses actives à ce niveau-là. Donc on a une reprise évolutive de la maladie au niveau osseux. Donc il va falloir qu'on rediscute pour reprendre un traitement et probablement à base de chimiothérapie parce qu'on n'a pas 36 solutions. Mais on n'a pas vraiment d'espoir de tout stériliser. Sur le plan professionnel, vous ne pouvez plus travailler, monsieur Ferrand.
Mais je voulais vous poser une question. Quelles sont mes chances de survie ?
Le 11 décembre 2011, Frédéric Ferrand meurt d'un cancer de la vessie. Il avait 41 ans. Il était père de deux jeunes enfants. Paul-François l'apprend le lendemain, rentrant à Lyon où il a témoigné contre Monsanto. Accompagné de sa femme et de ses deux filles, il est venu dire qu'il n'accepte pas que sur l'étiquette du produit qu'il a utilisé en 2004, il n'y ait aucune mention ni du chlorobenzène, ni de l'alacor, et encore moins de leur danger. La justice lui donnera-t-il raison et Monsanto sera-t-il condamné?
Hold my hand and pull me close next to me, kiss my cheek, cast my days. Day three, take me to a deep river, steal a kiss when I'm lost in the mist.
Will you still be there for me once I'm yours to obtain? Once my fruits are for taking and you flow through my veins, do you still think get bound by his poisonous chains? For a man who can follow his heart and stand up in my holy terrain. I am blue when the moon hits my skin right, hot pink when you open up my sweet thighs. Pull you in and your life can begin, cause it's early days. Still be there for me. Now I'm yours to obtain. Now my fruits are for taking. And your fingers are stained. Do you still think I'm beautiful when you left me in flames? My love is so beautiful.
De l'affaire, un céréalier de 47 ans, Paul François, il poursuivait Monsanto pour avoir été intoxiqué après avoir inhalé du lasso, un désherbant aujourd'hui interdit.
C'est un agriculteur de Bernac en Charente, c'était en 2004. Aujourd'hui âgé de 48 ans et invalide, il avait reçu au visage des vapeurs en ouvrant la cuve d'un pulvérisateur fabriqué par le leader mondial de l'agrochimie.
Paul François a subi de graves troubles neurologiques et il se bat pour faire reconnaître en France la toxicité de ses produits.
Notre actualité de la journée, c'est donc l'attente de cette décision de justice aujourd'hui à Lyon concernant le procès qui oppose Paul François, un agriculteur charentais, à la firme Monsanto.
Le 13 février 2012, Monsanto est jugé responsable du préjudice de Paul François suite à l'inhalation du produit Lasso. Le 27 avril 2004, le tribunal condamne Monsanto à indemniser entièrement Paul François de son préjudice. Le jour même, la multinationale décide de faire appel. Et elle a le temps, et elle a l'argent pour ça. À la sortie du tribunal, l'avocat de Monsanto, Jean-Philippe Delsart, s'en explique au micro de France 3.
Il n'y a pas de preuve de l'inhalation par M. François du produit en cause. Et il n'y a pas de preuve de relation de cause à effet entre ce produit et les séquelles qu'il présente.
C'est tout inventé, selon vous.
C'est pas tout inventé. Il est sûrement malade, mais ce n'est pas à la faute du lasso. Et en tous les cas, ce n'est pas prouvé.
Le combat se poursuit donc, lentement. En mai 2015, enfin, les plaidoiries ont lieu. Au sein de la famille François et parmi ses amis, les doutes s'installent. Et si Monsanto gagnait? Et si une nouvelle fois les multinationales s'en sortaient à coup de pression? Le 10 septembre 2015, Paul François se rend à Paris pour attendre la décision de la Cour d'appel de Lyon en compagnie de son avocat. Le téléphone sonne. Victoire. Après 8 ans de procédure judiciaire, Monsanto est reconnu responsable de son intoxication. Voilà. 8 années à s'interroger, à prouver, à expliquer, à tenir bon face aux pressions. Devant la caméra, Paul François parle d'une décision historique.
Oui, je crois qu'elle est historique. Je crois vraiment qu'elle est historique parce que il me semble que c'est la première fois qu'un individu ose attaquer cette firme et gagne, quoi. Et les fasse condamner. J'aimerais bien aussi que, avec cette décision, le monde syndical agricole prenne en main ce sujet des pesticides. Il faut réagir, parce que ce sujet, il nous appartient à nous, utilisateurs. Il faut vraiment réagir. J'imagine que si Monsanto a été capable de commercialiser un produit dangereux pour nous, j'imagine qu'il y a d'autres produits et qu'il y a d'autres firmes qui le font aussi.
Le soir même, Monsanto se pourvoit en cassation. La décision est attendue dans le courant de l'année 2017. Les multinationales jouent la montre, l'usure, comme d'habitude. Mais quoi qu'il en soit, cette décision de justice brise une partie de l'omerta qui entoure ces questions. Dans les campagnes françaises, ils sont de plus en plus nombreux à sortir de leur silence, à raconter le mal qui les ronge et à pointer du doigt les multinationales, les pesticides, mais aussi les autorités nationales qui ont poussé pendant des années à l'utilisation massive de ces produits sans effectuer le travail de prévention et d'information nécessaire. La lutte contre cette agriculture gorgée de pesticides s'organise non seulement en France, mais partout dans le monde. En octobre 2016, à La Haye s'ouvre un procès symbolique médiatique contre Monsanto, accusé par des associations de crimes contre l'humanité et d'écocide. Organisé par un réseau associatif et militant, ces organisations accusent l'entreprise de commercialiser des produits toxiques qui, selon eux, ont causé la mort de milliers de personnes, comme le glyphosate ou encore l'agent orange, un herbicide pulvérisé par avion au-dessus des forêts par l'armée américaine durant la guerre du Vietnam. Dans la salle, ils sont 20 plaignants venus d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et d'Europe. À la barre, 30 témoins et experts des 5 continents prennent la parole. Parmi eux, on reconnaît Paul François qui vient raconter son histoire, son quotidien et son long combat contre l'entreprise. Puis on découvre d'autres histoires, non pas d'exploitants, mais de particuliers. Oui, dont cette femme, Sabine Grataloup, venue avec des photos de son fils, Théo.
Ces photos sont celles d'un petit garçon. Un petit garçon qui s'appelle Théo et qui est mon fils. Il est né il y a 9 ans maintenant. Il est né avec des malformations, en particulier une atrésie de l'œsophage, c'est-à-dire que son œsophage ne descendait pas jusqu'à son estomac. Quand nous avons demandé aux chirurgiens d'où pouvaient venir ces malformations, ils nous ont dit que les seules études disponibles à l'époque pointaient vers une implication des pesticides. Un an après, je me suis retrouvée à faire en fait ce que je faisais tous les ans, c'est-à-dire que chez nous avons une carrière d'équitation, nous avons des chevaux à la maison, c'est notre métier, et sur lequel chaque été je passais un désherbant à base de glyphosate. J'ai pris conscience que tous les ans, et donc forcément au début de ma grossesse, j'avais passé ce désherbant à base de glyphosate sur la carrière d'équitation. Mon enfant a été exposé à une forte dose de désherbant à base de glyphosate à la 3e et 4e semaine de grossesse. Et il se trouve que c'est à cette période-là que l'œsophage et la trachée se forment chez le fœtus. C'est ce que les toxicologues m'ont dit appeler l'effet fenêtre, c'est-à-dire une intoxication forte à un moment qui est crucial pour le développement du fœtus.
À la haie, d'autres mères ont fait le déplacement. Parmi elles, Maria Ruiz Robledo, qui habite dans un petit bourg de la province de Buenos Aires. Elle aussi a un enfant, Martina, victime de cette même maladie. Au nord, les victimes luttent avec l'aide des médecins et le soutien des systèmes de santé. Au sud, ils sont souvent abandonnés. Au Brésil, selon le chercheur Marcelo Firpo, le ministre de la Santé estime que plus de 400 000 personnes sont contaminées par les pesticides chaque année. 62 000 ont été victimes d'empoisonnement aigu, rien qu'en 1999. Il y a plus de 60 ans, le monde de l'agriculture a fait sa révolution aveugle. Monoculture, industrialisation, chimie. Lorsqu'on voit des images d'agriculteurs pulvérisant leurs champs, habillés de la tête aux pieds comme des travailleurs de laboratoire ou du nucléaire, on se dit que s'il faut autant se protéger, c'est que les produits utilisés sont bel et bien dangereux, effrayants même. La santé des hommes et de la terre en paie désormais le prix, comme Paul François l'indiquait dans l'émission Interception de France Inter en 2014.
Je suis à la fois j'ai les conséquences de mon accident avec des problèmes de santé, et on me stigmatise parce que je suis un paysan pollueur. Et moi, j'estime avoir de la chance, parce que je suis là et je vous parle. Et je suis ému parce que je pense aux copains qui ne sont plus là. Je pense à Yannick, je pense à Frédéric et puis plein d'autres qui ne sont plus là. Yannick Chenet, sur son lit d'hôpital, il m'a dit « Mais tu crois, Paul, que c'est mes produits qui m'ont empoisonné ?» Et je dis « Mais Yannick, oui, parce que... » Enfin, je ne sais pas, mais en tous les cas, tu as été reconnu maladie professionnelle, alors tu sais... Bon, et quelques minutes après, il me dit « Mais j'ai peut-être empoisonné des gens avec mes produits. » C'est ça, la vie de paysan. Et il est mort à moins de 50 ans, dans des souffrances atroces. Mais moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que je ne veux pas que quelqu'un vive comme moi. Je ne veux pas que des gens meurent comme Yannick Chenet. Voilà. Mais il faut bon sang de bois. S'il y a, allez, 10 agriculteurs en écoutant votre reportage qui se disent « Ouais, ben il a peut-être raison quand même. Hein. » C'est vrai qu'on ne peut pas continuer comme ça.
Et combien serons-nous demain malades à cause des pesticides ? If I don't know what I'm doing. We'll be right back.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le danger des pesticides. Notre invité, Pierre Thomas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du MODEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux. Vous êtes aussi éleveur et producteur de céréales dans l'Allier.
Tout à fait.
À quel endroit de l'Allier, d'ailleurs ?
Vers le nord-ouest de l'Allier, Ygrande, entre vers Bourbon-l'Archambault, pas très loin de la très belle forêt de Troncé qui souffre énormément de la sécheresse en ce moment.
Bien, voilà, c'était pour la carte postale de chez vous, l'Allier le méritait bien. J'ai l'impression parfois, et en particulier aujourd'hui à travers ce récit, que l'agriculture est une sorte de condensé des maux de notre époque, une époque sauvage, brutale, qui vit sous le règne du fric dans une société essentiellement marchande, et qui donne aux pots de terre encore plus de fragilité devant le pot de fer. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? C'est peut-être pas le seul secteur de l'économie comme ça, mais quelque part il y a ça.
Ce n'est pas le seul secteur de l'économie, mais c'est un secteur qui est extrêmement touché. Quand on choisit le métier d'agriculteur, on veut être agriculteur tout simplement parce que on veut vivre dans la nature, on veut vivre à l'air libre.
Et
on veut être indépendant.
Oui, c'est ça.
On veut être indépendant. On veut pas avoir de chef au-dessus de soi. Et puis on fait un métier extrêmement noble, qui est celui de produire de la nourriture pour les gens. Sauf que les dés sont un peu pipés à un moment, parce que derrière tout ça, il y a une industrie, il y a de la finance, qui fait que ce monde-là est très 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 encadré, que la liberté on ne l'a plus, que l'air libre on l'a toujours, mais pas toujours facile à respirer, et que nous vivons dans une société où socialement c'est quand même très compliqué pour le monde agricole.
Bien sûr. Et quelle est la mission, l'utilité, les résultats d'un syndicat comme le vôtre dans ce débat, le MODEF ?
Alors, le MODEF, nous voulons défendre une agriculture qui est basée sur la vie, sur les hommes, les êtres humains. Et donc, nous voulons une agriculture nombreuse, riche de sa vie, pas forcément pécuniairement, mais il faut avoir les moyens de vivre correctement de son travail, mais riche de sa vie parce que effectivement c'est un métier où on peut véritablement s'éclater. Donc c'est un peu le sens, et donc pour être nombreux, il nous faut des exploitations, une agriculture qui répondent aux besoins de notre société d'aujourd'hui.
Et pas plus. C'est-à-dire ne pas aller dans la surproduction. Est-ce que vous adhérez au concept, parce qu'il me vient à l'esprit par rapport à ce qu'on dit, d'agriculture raisonnée? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire?
Alors l'agriculture raisonnée,
oui, est-ce que c'est un slogan, un concept?
Ça peut être un slogan, ou ça peut être pour certains agriculteurs quelque chose qui a du sens. L'agriculture raisonnée, pour bon nombre d'agriculteurs, c'est on essaie de travailler avec, enfin on travaille avec la nature et on essaie de corriger les petits défauts qu'il y a, mais quand on peut faire travailler la nature comme ça, on l'aide un peu.
Quand
mais
on peut donner plus, la priorité voilà, à la nature, c'est ça.
On donne la priorité D'accord. à la nature. Après, ça peut devenir tout simplement un concept pour un certain nombre de gens qui disent agriculture raisonnée, ce qui permet de se laver les mains derrière sur un certain nombre de choses. C'est aussi ce que l'on entend dans un certain nombre, dans l'environnement agricole. On dit, mais c'est de l'agriculture raisonnée. Ça n'a pas véritablement de sens tant qu'on n'a pas un certain nombre de normes qui sont là derrière.
Alors, on va revenir sur l'histoire et le combat de Paul François. Il lance donc deux procédures, une contre la mutuelle agricole, la seconde contre Monsanto. On va commencer par le premier volet. Quelles sont les difficultés pour les paysans de faire reconnaître des maladies professionnelles, et j'entends, liées aux pesticides?
Alors, la mutualité agricole est un organisme qui est issu du monde agricole complètement.
Donc censé vous soutenir.
Censé nous soutenir. Sauf que dans ce monde agricole, il y a plein d'interférences. L'industrie agroalimentaire et l'industrie qui tourne autour de l'agriculture a eu une action extrêmement forte. Or, les dirigeants de la mutualité sociale, pour la plupart, sont des gens qui sont sans doute de plein de bonne volonté, mais qui ne remettent pas en cause le système agricole dans lequel on est. Donc, quand on ne remet pas en cause le système agricole, on ne veut pas reconnaître les excès. Donc on ne reconnaît pas les maladies qui sont dues
ça
aux excès
avec, de l'emploi de produits.
Donc on est dans ce système-là. Ouais. Le monde agricole est tout petit, tout le monde se connaît, tout le monde se tutoie, tout le monde vit ensemble et on ne bouge pas trop, on n'écarte pas trop parce que ça fait mal quand on écarte.
Alors, par rapport à ces produits dangereux, heureusement maintenant certains agriculteurs se cabrent, s'organisent, on l'a vu lors du récit. Ça veut dire que pendant des années, vous les agriculteurs, vous avez souffert en silence?
Oui, mais beaucoup d'agriculteurs...
Parce que vous n'aviez pas le choix, bien sûr.
On n'avait pas le choix, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après-guerre, il a fallu nourrir les gens. L'Europe s'est constituée. L'Europe s'est constituée sur une base agricole. On a fait des lois d'orientation agricole. Les lois d'orientation agricole avaient deux objectifs. L'un, il fallait nourrir la population à pas cher, et l'autre, il fallait trouver de la main-d'œuvre pour l'industrie. Donc... quelque chose qui est relativement simple, il faut spécialiser les agriculteurs, on spécialise les agriculteurs de plus en plus dans leur production, on spécialise aussi les zones de production, c'est-à-dire qu'on fait des zones céréalières, des zones laitières, des zones d'élevage, certes en relation un peu avec l'agronomie, mais pas tout à fait quand même. Donc on a spécialisé énormément les agriculteurs, on a agrandi les exploitations, on a beaucoup modernisé, dit modernisé, parce que c'est pas toujours le cas, malgré si on a du matériel extrêmement moderne. Tout ça pour produire le moins cher possible, quelles qu'en soient les conditions. Et tout a été fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que les agriculteurs, on a créé les centres de formation agricole, les lycées agricoles, qui ont formé des générations d'agriculteurs pour produire dans ce sens-là, mais on a formé des générations de techniciens agricoles, de conseillers agricoles qui ont été dans ce sens-là. Donc voilà. Donc les choses commencent de se remettre un petit peu, sont remises un petit peu en cause. Dernièrement, on change un petit peu d'orientation. On parle beaucoup d'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est quelque chose qui sort des années 68, donc de tout ce mouvement-là, où on dit qu'il faut aller beaucoup plus vers la nature. Mais on peut produire, je pense, d'une manière beaucoup plus naturelle. L'agriculture biologique, moi je suis producteur biologique, donc je suis en agriculture biologique depuis 20 ans, parce que j'ai refusé à un moment donné les pesticides et parce que j'ai refusé ces poisons-là. C'est pas la panacée. On ne va pas forcément faire que de l'agriculture biologique et ça n'a pas de sens en tant que tel aujourd'hui. C'est toute l'agriculture qu'il faut amener. Ce n'est pas un secteur de l'agriculture à côté d'un autre.
Il faut que ce soit transversal comme l'écologie, d'ailleurs.
Il faut que ça soit transversal. Il faut qu'au niveau agricole, on utilise de moins en moins de produits qui sont extrêmement dangereux.
Y compris pour des productions qui faisaient plus appel que d'autres à
ces produits-là. On n'a pas parlé d'un produit qu'on utilise, un insecticide qu'on utilise sur la production de la banane.
Oui, bah allons-y.
On a pollué la terre en Guadeloupe pour 500 ans. Ouais. C'est-à-dire que pendant 500 ans, on sait que on ne pourra pas manger un certain nombre de produits qui sont issus de ces régions-là. Quelle est la dangerosité de ce produit-là? Ce produit-là fait que des enfants ont quelques malformations, mais un retard mental important, une précocité sexuelle extrêmement importante, se retrouve dans une situation où les agriculteurs de Guadeloupe disent maintenant à l'État, aujourd'hui, stop, arrêtez. On veut faire un bilan de ce qui existe vraiment, puisque nos enfants qui sont issus de ces secteurs de production de bananes sont malades, donc nous, on veut qu'ils soient reconnus et soignés en tant que tels, et on veut changer de méthode. Or, que fait l'administration et que fait l'État là-dessus? C'est de dire... mais la production de bananes, c'est quelque chose qui s'exporte, donc il y a de l'argent à faire là-dessus, donc il faut continuer de produire, quelles qu'en soient les conditions. Ce sont les agriculteurs qui demandent, et l'administration leur dit, non, vous arrêtez pas comme ça quand même. C'est vrai pour la canne à sucre aussi, on utilise là aussi le Roundup, et quand un agriculteur n'utilise pas le Roundup, on lui dit, c'est pas très bien, ton exploitation est pas très propre, c'est pas très... Alors qu'on peut très bien produire la canne à sucre, enfin c'est du moins ce qu'ils nous disent, sans glyphosate. Donc on est dans un système où toute l'industrie, tous les conseils agricoles, la politique agricole favorise ce type de production, alors qu'on peut faire autrement. Et puis si on peut pas faire autrement sur la totalité aujourd'hui, il faut y aller rapidement, il faut travailler rapidement pour y aller.
Ça en fait des adversaires à combattre quand on veut justement combattre ce système. Et l'histoire de Paul François en est l'illustration. On a vu par rapport à la mutuelle agricole, pas facile. Par rapport à l'État, c'est pas facile non plus. Ce que vous disiez par exemple concernant les bananes. Mais je reviens à Paul François, qui au micro de Pascal Pascariello a confié justement toutes les difficultés, toutes les pressions qu'il a pu subir pendant cette période de combat.
Les avocats de Monsanto font en sorte que je ne les oublie pas.
C'est les procédures. Dès que les avocats modifient dans leurs conclusions, dans leurs écritures, vous devez informer la partie adverse. Et moi, je ne fais pas attention. Et à un moment donné, ils en viennent à me les faire déposer par huissier. Donc si des fois, je les oubliais, boum, vous avez un huissier le matin à 8h, là, qui vient vous déposer là 200 pages. Et boum, et quand vous lisez ces 200 pages... C'est fabulation, c'est tout ça une machination. Ma femme est complice de tout ça, qu'on a voulu se faire une notoriété. Enfin, vous faites des cauchemars la nuit, vous réveillez. J'ai été sali, j'ai été calomnié, j'ai tout entendu. Et puis, moi, les médias m'invitaient, j'ai essayé de choisir. Alors, ah, on a vu ton père à la télé, ah, on l'a vu dans les journaux, ah, puis après, il est un peu plus sur moi, ah, il veut se faire de l'argent, hein, puis il va être connu.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ben, c'est le principe, effectivement, quand quelqu'un se défend, c'est vrai pour un certain nombre de syndicalistes qui se défendent, c'est que, bien sûr, derrière, il y a un intérêt pécunier, personnel qui est là derrière. Et c'est pas toujours le cas, quand même. Et c'est souvent pas le cas, quand même. Alors, je dis pas que ça peut pas arriver de temps en temps, mais quand on voit Paul François, son problème, c'est effectivement d'arrêter. Il va jusqu'au bout de son métier. C'est-à-dire qu'on produit pour nourrir les gens, pas pour les tuer, pas pour les rendre malades. Donc il va jusqu'au bout de cette démarche-là. Et c'est ça qu'on lui reproche, en fait. Et c'est pour ça qu'on l'attaque.
Mais on voit quand même qu'à travers lui et d'autres, il y a une prise de conscience. Alors ça, qu'est-ce que vous inspire aussi, cette prise de conscience ? Est-ce que c'est un soulagement pour vous ? Est-ce que vous vivez mieux votre condition de l'agriculteur avec cette prise de conscience ? Ça vous encourage ?
Alors, évidemment que ça nous encourage. Et évidemment, il y a une prise de conscience dans le monde agricole et hors du monde agricole. Dans le monde agricole, il y a une prise de conscience forte. Beaucoup de jeunes agriculteurs s'interrogent sur les méthodes de travail qu'ils ont. Beaucoup remettent en cause ces méthodes-là. Donc, ça avance. À mon sens, ça n'avance pas si vite aujourd'hui parce que il y a beaucoup de freins. Certes, qui viennent pas forcément que du monde agricole, enfin qui viennent pas du monde agricole, mais qui viennent du monde para-agricole. Mais cette prise de conscience. Et puis il y a cette prise de conscience des consommateurs quand même derrière, oui, qui est extrêmement importante et qui pousse
bien
derrière.
Sûr.
Parce que les consommateurs n'ont pas envie de manger un certain nombre de produits que l'on peut retrouver dans les assiettes.
Alors, on va écouter un autre témoignage, celui de Jean-Marie Dédion, donc un autre agriculteur qui s'est attaqué à la multinationale Monsanto. C'est un extrait de l'émission Interception de France Inter.
Je me sentais pas véritablement malade et d'un seul coup, j'ai une fracture de l'humérus droit, une fracture spontanée.
En vous hissant sur votre tracteur.
En montant sur mon tracteur. D'un seul coup, l'humérus s'est cassé. Alors là, par contre, des douleurs insupportables. Les premières constatations étaient terribles parce qu'ils m'ont dit que j'avais pratiquement aucune chance de m'en sortir. Alors ils ont commencé les chimiothérapies, puis tous les traitements pour nettoyer, laver les reins, pour éviter donc l'intoxication, ce qu'on appelle l'hypercalcémie. Et puis, greffe, c'était la seule solution. C'est des soins très lourds. Ça a duré 8 ans, tout ça.
Vous avez été l'un des premiers agriculteurs en France à vous porter en justice contre Monsanto. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous ?
Le déclic, c'est que j'ai trouvé scandaleux d'avoir fait croire aux agriculteurs que ces produits étaient sans danger, alors qu'ils connaissaient la dangerosité de leurs produits sur les bidons que j'ai utilisés, qui sont dans mes factures. Il était inscrit, étant donné la faible toxicité de ce produit, qu'une protection de l'utilisateur est nécessaire. C'est extrêmement grave.
Voilà, donc c'était un deuxième témoignage qui va dans le même sens que le combat de Paul François. Donc il y a prise de conscience, on l'a dit. Maintenant, on réagit. Mais je me dis aussi que la meilleure façon de ne pas être intoxiqué par des produits dangereux, effectivement, c'est de faire du bio. Parce que le bio, c'est répond à deux critères. Pas de pesticides et pas d'OGM, on est bien d'accord.
On est d'accord, bon. Le principe c'est pas de produits chimiques.
Et je dis au passage, même pour les particuliers, vous savez, on est des maisons, petites ou grandes, quand il y a des mauvaises herbes, avec le vinaigre blanc ça marche très bien. Alors c'est plus long, artisanal, mais ça marche très bien.
Mais ça marche, oui,
bon,
ça marche.
Voilà,
sur les petites surfaces, ça marche très bien.
Oui, sur les petites surfaces, évidemment. Alors, vous m'avez dit, vous êtes agriculteur bio, donc est-ce que il y a eu une reconversion, vous n'avez pas toujours été bio?
Ah, j'ai pas toujours
alors,
été
comment
bio.
Ça s'est passé, dites-moi.
Alors, comment ça s'est passé?
Et comment ça se passe?
Comment ça se passe? Donc, il y a une vingtaine d'années, et il y a une vingtaine d'années, effectivement, on avait quelques personnes qui commençaient d'être malades ici ou là. Quand on utilisait des produits, quand on faisait des traitements, on avait effectivement mal à la tête le soir.
Ouais.
Et là, on s'est dit, mais le mal de tête, c'est pas normal. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Alors, on n'avait pas tous les systèmes de protection qu'on a aujourd'hui. Hein. On était beaucoup plus... Et là, je me suis dit, mais on peut pas utiliser de poison, parce qu'on a utilisé un certain nombre de poisons. Quand on prend un herbicide, c'est on tue. Donc, on empoisonne une plante qu'on a pour la... On peut pas utiliser de poison pour produire de la vie. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut trouver une autre solution. Alors, je me suis tourné vers le bio. J'aurais pu me tourner vers une agriculture beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus... À l'époque, il n'y avait pas d'aide bio. Hein, donc, je n'étais pas dans ce système-là.
Il n'y a pas de prime de reconversion.
Il n'y avait pas de prime de reconversion. Au début, il n'y avait pas de prime de reconversion. Il n'y avait rien. Voilà. Donc, mais c'est cette prise de conscience là. Et puis j'ai toujours eu un peu la fibre un peu écolo, sans doute. Mais voilà. Donc j'aime bien la nature, j'aime bien les oiseaux, j'aime bien les animaux, j'aime bien les plantes. Donc voilà. Donc je me dis, on peut pas continuer comme ça. Il faut changer. J'ai pris
ce tournant. Et ça c'est bien. C'est d'un point de vue économique, il n'y avait pas perdu.
D'un point de vue économique, non, pas forcément beaucoup. Alors au début, c'est un petit peu compliqué quand même. Et puis on est sur un système d'agriculture qui était déjà peu utilisateur de produits, donc ça s'est fait relativement facilement quand même.
Alors il y a des primes à la reconversion. Est-ce que c'est équitable ça ou pas?
Alors les primes, est-ce que c'est équitable? Je ne sais pas si les primes c'est véritablement équitable. Nous avons au niveau du MODEF, nous pensons que effectivement, quelles que soient les primes, on en a aujourd'hui besoin parce que le monde agricole va véritablement mal. Mais on ne peut pas continuer économiquement avec ce système-là. Mmh. Il faut qu'à un moment donné, l'activité agricole en elle-même puisse permettre une rémunération. Donc la reconversion, qu'on aide à la reconversion, c'est
première étape
qu'on fait, mais après ça doit vivre de soi-même. Ouais. On va discuter la réforme de la PAC bientôt. Si on continue de donner ces primes de cette manière-là aux agriculteurs, c'est-à-dire à l'hectare derrière, c'est-à-dire qu'on va continuer sur ce système-là. Il faut modifier complètement cette politique agricole pour arriver à ce que le métier d'agriculteur en tant que tel soit reconnu, qu'on n'ait plus de prime à l'hectare. On a induit, j'avais pensé à la prime à la vache allaitante que mes collègues agriculteurs vont comprendre. Elle a été mise en place en 78. On a modifié complètement l'économie nationale au niveau de ça. On a produit des broutards pour aller s'engraisser en Italie. Ouais. Aujourd'hui, l'Italie utilise une partie de son maïs pour faire du méthane. Donc, on vend moins en Italie. On essaie de trouver des sources ailleurs pour vendre nos animaux. Et on a un retour après en France. Et on retombe après en disant, on a besoin d'importer pour pouvoir nourrir. On est sur un système qui fonctionne pas bien. On marche un peu sur la tête.
Dites-moi, il y a une puissante organisation qui s'appelle la FNSEA. Quel est le premier syndicat agricole? Quel est votre regard sur cette institution?
Bon, c'est une institution que je connais bien puisque j'ai commencé de militer à la FNSEA, comme tous mes collègues agriculteurs. La FNSEA est diverse et variée. C'est-à-dire qu'on a de tout. On a des petits agriculteurs qui souhaitent effectivement s'en sortir. On a des plus gros. Ce qui se passe, que ça soit les FNSEA ou que ce soit dans les autres organisations, c'est cet environnement que l'on a autour des décideurs. Cet environnement de lobby que l'on a autour des décideurs qui sont là et qui font prendre des décisions à des gens qu'ils n'auraient peut-être pas pris s'il n'y avait pas ces lobbies-là derrière. Donc c'est cet environnement-là qu'il faut casser aujourd'hui.
C'est un conflit d'intérêts, en quelque sorte. Parfois.
Parfois, oui. Mmh. Parfois, il y a un conflit d'intérêts.
Bien, je voudrais donner une statistique intéressante concernant le bio. On parle beaucoup du bio parce que c'est la réponse apparemment la plus évidente au problème que nous avons expliqué et raconté hein, tout à l'heure. En 2015, donc dernière statistique disponible, 4 pays représentaient à eux seuls plus de la moitié des surfaces européennes en bio, donc ça fait 53% que se partagent 4 pays. L'Espagne d'abord, avec 1,96 million d'hectares, c'est une progression de 22% par rapport à 2010. En deuxième position, l'Italie, 1,5 million d'hectares, plus 34%. La France arrive troisième, 61% d'augmentation de cette aire consacrée au bio. Et l'Allemagne arrive quatrième. Et pour être tout à fait précis sur cette donnée, si les pays du Sud sont les plus bio en production, ce sont les pays du Nord qui sont les plus grands consommateurs de bio. Voilà, je vais terminer sur ces données précises, chiffrées et statistiques. Merci infiniment. Au revoir.
Merci, au revoir.
C'était Affaires sensible aujourd'hui, les pesticides et leurs dangers. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Tristan Gratalon.